Les oiseaux et les fleurs sont de bons professeurs. Jean-Louis a pris son vélo ce matin. Ils sont en vacances, Yvonne et lui, près du massif du Jura. Et ils envisagent. Et Jean-Louis, ce matin, a le cœur léger, les jambes qui frétillent, il va se payer le col de la Faucille. Et le voici parti. Fier de son ascension, il va prendre une photo quand il sera en haut. Il va triomphalement revenir auprès d'Yvonne et lui dire « Tu vois, j'y étais !» Prendre une photo du paysage de la vallée qui s'offrira à ses pieds. Jean-Louis monte, pédale, transpire, souffle, souffre. Mais en haut, il prendra la photo et la montrera à Yvonne, la photo du paysage que l'on voit d'en haut et qu'elle ne voit pas parce qu'elle est en bas. Jean-Louis pédale. Transpire, souffle et souffre. Et puis, petit à petit, le col arrive. 500 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Il ne se retourne pas pour bien profiter de la vue une fois arrivé. Il se dit, là, ce sera l'explosion, ce sera la fierté, ce sera enfin le triomphe. Je pourrai voir le paysage de cette vallée. Jean-Louis arrive en haut, et là, les arbres lui cachent la vue. Et le voilà déçu, il ne peut rien photographier du tout, que des arbres. Beaux, certes, mais tellement inutiles pour lui qui voulait voir la vue de la vallée. Yvonne se contentera d'une photo de lui devant la plaque du col, c'est déjà pas si mal. J'arrive à un âge où je me retourne de temps en temps pour voir à quoi ressemble mon passé. Comme ce Jean-Louis, je me retourne, mais là, il n'y a pas des arbres qui me cachent la vue. Il y a ma mémoire, il y a mes proches qui me disent, qui me racontent sans le faire vocalement nécessairement, ce qui s'est passé dans la semaine qui vient de finir, dans le mois, dans l'année, dans la décennie, dans le siècle, enfin je ne suis pas encore au siècle, le siècle dernier, moi je peux dire, hein, au siècle dernier, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je vois dans mon passé? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mon passé? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir dans mon passé? Et je donne un conseil à certaines personnes qui sont plus jeunes que moi, faites de votre vie ce que vous aimeriez voir quand vous l'aurez derrière vous. Faites de votre vie ce que vous aimerez contempler quand, après avoir gravi des cols, vous vous retournerez et vous vous direz « Ouais, j'ai fait ça. Ouais, j'ai traversé tel ou tel paysage. » Ainsi, est-ce que vous pourrez dire « Ah, moi j'ai bien gagné ma vie, j'ai gagné des 100 et des 1000, j'ai toujours mangé de bonnes choses et j'ai toujours porté de beaux vêtements, c'était chouette ma vie !» Vous imaginez des obsèques, vous imaginez des obsèques, et puis alors dans les obsèques on fait toujours un petit mot, enfin on fait la mémoire de la personne qui a vécu, alors imaginez. Ah, mais alors, Jean-Louis, tenez, il a toujours mangé bio. Et il s'est toujours habillé chez Armand Thierry. Ouais. C'était vraiment un homme bien. Hein. Et vous savez, Jean-Louis, pendant les 15 dernières années de sa vie, il a roulé en Mercedes. C'était quelqu'un de bien, ce Jean-Louis. Vous imaginez un discours comme ça, à des obsèques? pourtant que d'énergie on passe à gagner de l'argent dans notre société, à faire les courses, à s'acheter des vêtements, à s'acheter des voitures. Et moi-même, j'ai des vêtements, comme vous pouvez le constater, heureusement pour vous. Nous avons aussi une voiture. Ce que je voudrais simplement dire ce matin, c'est que à mes obsèques, ou à vos obsèques, un jour, moi j'aimerais qu'on dise, c'était un homme qui a plus recherché à vivre le royaume de Dieu et sa justice qu'à se préoccuper de ses vêtements et de sa voiture et de ceci et de cela. J'aimerais qu'on dise ça. J'aimerais que quand l'année 2025 sera finie, quand je me retournerai sur mon passé pendant cette année, je dise, fin de compte, c'est sûr, j'ai passé une vie à rechercher le bien de mes proches. J'ai passé une vie à honorer Dieu par ma conduite auprès des gens que j'ai croisés. J'ai perdu de l'argent, mais on s'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est ça. J'aimerais qu'on puisse dire, comme Paul, j'aimerais pouvoir dire, comme Paul, vous savez, l'apôtre Paul, dans une de ses dernières lettres, il a dit à Timothée, chapitre 4, la deuxième lettre à Timothée, « J'ai combattu le bon combat ». Sympa de pouvoir dire ça. Hein. Ou alors, j'ai essayé de faire de ma vie quelque chose de beau, de bon pour les autres, de glorieux pour mon Créateur, bien plus que de chercher à briller par mon niveau de vie. Cette priorité-là, d'ailleurs, met au second plan nos différences sociales. Qu'est-ce qui compte dans notre Église ? Est-ce que c'est le compte en banque ? Ou est-ce que c'est ce qu'on fait pour Dieu, ce qu'on vit avec Dieu? Et si c'est ce qu'on vit avec Dieu, et je crois que c'est ce qui doit compter dans notre Église, alors les différences sociales s'estompent. Un docteur en pharmacie, un ingénieur en informatique, quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui n'a aucun métier digne de ce nom, quelqu'un qui a un handicap mental, toutes ces personnes que je viens de citer et mille autres ont le même niveau devant Dieu car il s'agit dans l'Église de vivre avec Dieu quelque chose et pas de gagner des cent et des mille. J'aime bien cette Église-là. J'aime bien cette Église où on nous dit, où le Seigneur lui-même dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. » Le royaume de Dieu. Je viens de lire l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et ce sera mon texte pour aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient et qui intervient dans nos vies, qui pardonne, qui relève, qui façonne, qui redresse, qui fait grandir, qui pousse en avant pour le bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu dans vos vies et autour de vous. Et sa justice. Le mot justice, c'est pas forcément vivre selon telle ou telle loi, telle ou telle réglementation, c'est faire de sa vie quelque chose de vertueux, de juste dans le principe. Et tout cela vous sera donné en plus. Là, c'est ce verset 33 que je viens de lire, conclut un magnifique texte sur la nature, n'est-ce pas, Sarah, où est-elle sur la nature. C'est pour ça que j'ai dit que les oiseaux et les fleurs sont de bons professeurs. Ne vous inquiétez donc pas, disait-il juste avant, verset 31 de Matthieu 6, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. En fait, dans ce texte, les propos de Jésus, enfin Jésus parle de l'inquiétude. Comme mes feuilles sont tombées tout à l'heure, il faut que je les remette un peu dans l'ordre. Donc vous pouvez en même temps regarder votre montre si vous voulez. Ou, je ne sais pas, dire bonjour à votre voisin, voilà, j'arrive. Non, vous l'avez déjà fait, dire bonjour à votre voisin. Donc c'est... La 5, là voilà. Je vais lire maintenant les versets 25 à 34 de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. C'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de la citation. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et Jésus prend à témoin les oiseaux d'une part et les fleurs d'autre part. Et il y a un certain parallèle entre les deux images qu'il donne. Il dit d'un côté, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers. Et pour les fleurs, il dit, observez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, elles ne se tissent pas de vêtements. Pour les oiseaux, il dit, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Et pour les lys, il dit, ou les fleurs, il dit, pourtant je vous l'affirme, même Salomon avec toute sa richesse n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Puis ensuite, pour les oiseaux, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Et pour les fleurs, il dit, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ? Donc on voit vraiment un parallèle entre les deux images que Jésus utilise. Et puis la moralité, elle, par contre, est un petit peu différente, la moralité que Jésus tire de ces deux images. Pour les oiseaux, il dit « Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie ?» Et pour les fleurs, il dit « Comme votre foi en lui est faible. » Notons qu'à première vue, ce texte pourrait être un éloge de la paresse. Ça fait toujours, c'est une musique douce à nos oreilles. « Ne fais rien et tout ira bien. » Jésus parle plus loin de la peine que l'on se donne chaque jour, donc peut-être qu'il faut nuancer un petit peu. Jésus a une manière de s'exprimer qui est parfois très radicale pour enseigner. Et ça marche parce qu'on se souvient de ce qu'il raconte, de ce qu'il enseigne. En revanche, parfois, si on fonce tête baissée à appliquer ce qu'il dit, ben on va se couper une main, par exemple, on va s'arracher un œil, on va haïr ses parents, on va faire des tas de choses que Jésus ne demande pas de faire. Mais dans ses paroles, il y a ces propos-là, parce qu'il enseigne par contraste, par une mise en contraste très fort. L'apôtre Paul, qui a étudié les enseignements de Jésus, qui a pris le temps de les étudier, dira qu'il faut gagner sa vie, par exemple, et que celui qui ne veut pas travailler ne va pas manger non plus. Donc, on n'est pas du tout dans un éloge de la paresse. On est dans un éloge de la confiance. Les oiseaux travaillent. Vous avez déjà vu un moineau sur une chaise longue, les pattes en croisées comme ça, les ailes en train de bouger pour se faire un petit éventail, en train de siroter une orangeade. Vous avez déjà vu un moineau faire ça ? On voit toujours, toute la journée, les oiseaux travailler, n'est-ce pas ? Donc, dire que Jésus fait là l'éloge de la paresse, calmons-nous. Un peu facile. Même Jésus lui-même a enseigné qu'il faut amasser, d'ailleurs. Je prends un de ses enseignements dans l'évangile de Matthieu. « Lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent Donc Jésus dit, bossez un peu, quoi. Et puis si vous ne savez pas de quoi, comment faire, n'entamez pas le projet. Voilà. Dans ce texte-là, Jésus parle de partir à son service. L'enseignement qu'il porte au travers de cette image, au moyen de cette image, n'est pas tout à fait dans notre propos. Néanmoins, il utilise quand même une image où il est question de travailler. Jésus procède par contraste, donc. Ce contraste apparaît à l'écoute de Jésus entre deux préoccupations. Celle pour la nourriture et les vêtements, les préoccupations de notre monde, de notre existence physique, matérielle, d'une part, et d'autre part, celle pour la vie du peuple de Dieu, la vie avec Dieu. En réduisant à rien la première, et là il force le trait, Jésus enseigne que la seconde doit être prioritaire dans nos vies. Et il aboutit au verset 33 que l'on connaît depuis le « Cherchez d'abord le royaume ». Le j'aime 1, je ne sais plus le numéro, mais je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Voilà. C'est un petit peu en parallèle avec une phrase de la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prier cela montre qu'on exprime notre dépendance à Dieu. Ce n'est pas du tout pour dire « Bon, Seigneur, tu nous le donnes, hein, parce que nous, on nous a dit qu'il ne fallait rien faire si on était des gens de foi. » Donc tu nous le donnes. Quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », ça n'empêche pas qu'on va bosser demain matin. N'est-ce pas ? Ce n'est pas une prière de paresse, c'est encore une fois une prière de dépendance, de confiance. C'est la même chose ici, dans notre texte. On peut par ailleurs revenir à la suite de notre texte, au verset 32 et 33. Ce sont les païens qui recherche sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. D'ailleurs, la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on ne met pas Dieu au courant qu'on a besoin de notre pain quotidien. Il le sait, dit Jésus ici, mais ça fait du bien de le redire. Et ça fait du bien de dire « Seigneur, je te fais confiance pour le pain que tu vas me donner ». On pourrait paraphraser notre Père de cette manière. En tout cas, je vous propose de le faire. C'est tout l'inverse de devoir rappeler au Seigneur. Ici, votre Père sait, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de lui rappeler. Non, Seigneur, quand moi je pars... quelque part, je prends la voiture et Jocelyne me dit souvent « T'oublie pas de rapporter ceci et cela ». Et je vais oublier, c'est fatal. Mais elle me le dit « T'oublie pas, hein ?» Enfin, elle ne me dit pas comme ça. Ça peut être pire. Bon, là, je ne la regarde pas. Mais quand nous prions Dieu, donne-nous notre pain quotidien, c'est pas « t'oublie pas de nous le donner hein !» C'est « oh, quel bonheur de faire confiance dans ce Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. » Alors oui, ça vaut la peine de se préoccuper d'autre chose que de ce dont Dieu s'occupe. Puisque Dieu s'occupe de notre pain quotidien, moi je vais m'occuper de mon Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous êtes déjà allé chez le dentiste ? Et dans la salle d'attente, c'est quoi votre psychologie chez le dentiste ? On a peur d'avoir mal. Et quand on arrive, on s'assied sur le siège, il y a un genre d'électricité, vous voyez ça. Et quand il nous demande d'ouvrir la bouche et qu'on entend, voilà. Ah, et là, on se dit, je vais avoir mal. Mais non, idiot, il t'a anesthésié toute la bouche. Tu vas avoir la bouche pâteuse pendant toute la demi-journée. Tu vas... Et donc, tu vas rien sentir. Mais il y a quelque chose qui te dit, je vais avoir mal. Et on a peur d'avoir mal. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus. N'aie pas peur d'avoir mal demain. Déjà, si tu as vraiment mal demain, au moins tu auras mal qu'une fois, tu n'auras pas mal aujourd'hui d'avoir peur d'avoir mal demain, et demain tu auras mal aussi, donc ça fait deux fois mal. Vous avez compris là ou pas ?
Non.
Si demain je sais, j'ai peur d'avoir mal demain, que je vais chez le dentiste demain, et que aujourd'hui je m'inquiète d'avoir mal demain, ça me fait mal déjà aujourd'hui. Donc j'ai mal aujourd'hui et demain j'aurai mal. Ça fait deux fois mal. C'est bon, là ça va, je peux continuer. Tandis que si j'écoute Jésus qui me dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », je dis aujourd'hui, je dis « Seigneur, demain, ça t'appartient et je vais bien aujourd'hui. J'ai pas mal, j'ai pas peur, tout va bien parce que demain, c'est demain. Et c'est entre les mains de mon Dieu. Et quand demain arrive, bah, j'aurai peut-être mal, mais au moins j'aurai mal qu'une fois. Jésus a souffert, pourtant, en enseignant ça, souvenez-vous de ce qu'il a souffert au jardin de Gethsémané. Il avait peur d'avoir mal. Il n'avait rien. Au jardin de Gethsémané, vous vous souvenez, c'est juste avant l'arrestation. Jésus était en train de prier son père. Il s'était éloigné. Et là, il avait un phénomène cutané de transpiration rouge, du sang. Il avait certainement des vaisseaux capillaires, je sais pas, qui avaient éclaté sous l'angoisse. Il avait peur d'avoir mal. Et il avait raison, parce qu'il allait souffrir. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus, là, s'inquiétait du lendemain qu'il allait vivre. Donc, même lui a connu cette douleur avant, anticipée. Et pourtant, son enseignement vaut. Il vaut quelque chose. Et je suis persuadé que cette confiance que nous pouvons avoir en Dieu nous évite bien des souffrances. Peut-être aussi que demain, on n'aura pas mal et qu'on se sera inquiété pour rien. Dieu comprend nos inquiétudes. Jésus les a connues lui-même. Et pourtant, il nous enseigne, ne vous inquiétez pas du lendemain. Certains d'entre nous ont peur de perdre leur travail. On peur de la maladie, on peur de la mort, on peur du départ d'un ami, d'un enfant qui quitte la maison, enfin de voir un enfant qui quitte la maison. Certains ont des problèmes pour se loger ou vivent des tensions terribles au travail. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais ce texte nous engage aussi à faire preuve de sagesse. Et c'est un enseignement qui a toujours valu. On dit aujourd'hui que nous sommes dans la période du stress, dans l'époque du stress. Le stress, il faut croire qu'il y a 20 siècles, c'était déjà le cas, même si on n'avait pas Internet. Je reviens à mon coup d'œil sur la vie, à mon Jean-Louis qui avait gravi son col de la Faucille et qui voulait regarder en arrière et ne voyait rien. Nous voyons notre vie à l'inverse. Et je nous interroge. Dimanche prochain, vous allez venir à reculons à l'église pour voir quelle est votre semaine. Vous allez voir pour l'avoir en face de vous. Et vous pourrez ensuite vous retourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, merci de m'avoir béni pendant cette semaine. » Pourras-tu dire fièrement que la semaine que tu vas passer maintenant aura été plus consacrée à chercher le règne de Dieu et sa justice plutôt que des soucis matériels ? Pourras-tu dire cela ? Pourrais-je dire cela à dimanche prochain ? C'est tout l'enseignement que nous donne ce texte, de faire de notre vie quelque chose de beau. Les oiseaux et les fleurs sont de bons professeurs. Sans même une parole, ils nous font une école. Ils disent à chacun que Dieu est souverain. Ils montrent à chacune qu'il fait notre fortune. Comme les passereaux, prenons comme un cadeau le soin que Dieu nous porte, l'amour qu'il nous apporte. Comme les fleurs sauvages, soyons à ce point sages que nous ferons confiance à ce Dieu de puissance. Mais plus que tout cela, comme un geste de foi pour servir ce beau Dieu, faisons de notre mieux. Mettons même avant tout, sans nous soucier de nous, son royaume et sa grâce bien en première place. Et lui saura comment et généreusement pourvoir à nos besoins et à nos lendemains. Amen.